Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec la Maison de la Présentation.
Bonsoir. Dans un rapport publié le week-end dernier sur les investissements privés et publics chinois dans le secteur minier au Katanga, l'ONG congolaise ACIDH relève que ce contrat minier contient des irrégularités. Sur quoi se font aussi les ONG pour dénoncer ces irrégularités? Trois invités participent à cette émission. Jean-Pierre Kukenda, chercheur en droit économique et social à Action contre l'impunité pour les droits humains ACIDH. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Dieudonné Tamboué, coordonnateur adjoint en charge de questions techniques au sein de la cellule de coordination technique et de planification minière au ministère des Mines. Monsieur Tamboué, bonsoir.
Bonsoir.
Alki Tengue, analyste économique et directeur général de Synergie Group, une société de consulting. Monsieur Tengue, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vos réactions, nous les avons déjà comme d'habitude de Boni, Mwanangi et de Boni en province orientale. Quand est-ce que la RDC cessera de négocier en faible devant les pays puissants qui investissent chez nous, mais qui souvent encouragent des pratiques dramatiques au détriment des populations? Augustin Kambal et Augustin Bonortizou, nos dirigeants ne sont pas parfaits car les irrégularités sont naturelles pour le commun des mortels. Contentons-nous des travaux fantastiques des Chinois en RDC? Aujourd'hui, nous sommes témoins vivants des travaux publics faits par les Chinois. Par rapport à cela, il y a une contrepartie contenue dans ces contrats, donc il y a une évolution. Disons plutôt merci à Dieu pour ces exploits. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 758 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le contrat minier signé entre la RDC et le groupe des entreprises chinoises contient quelques irrégularités. C'est notamment l'ignorance de l'apport de la gécamine en gisement minier. C'est ce que rapporte l'ONG Action contre l'impunité des droits humains, ACIDH en sigle, basé au Katanga. Dans son rapport déposé à notre rédaction de Lubumbashi ce week-end, cette ONG demande à l'État congolais de déterminer l'échéance du remboursement de l'argent chinois, de peur que cette nouvelle dette publique ne pèse longtemps encore sur les Congolais. Des détails avec Denise Maéo.
Ce sont des gisements dont la réserve est estimée à plus de 10 600 000 tonnes de cuivre et de cobalt que disponibilise la Gécamine. D'après l'ONG ACIDH, cet apport n'est pas reconnu dans le contrat minier sino-congolais. Mais au ministère des Mines, l'on affirme que la Gécamine a 33% des parts dans la nouvelle société Sicomine issue de ce partenariat. Entre-temps, l'ONG ACIDH souhaite que l'État congolais fixe une échéance de remboursement de 6 milliards de dollars des Chinois.
Connaissant le prix du cuivre et cobalt sur le marché international, on devrait par exemple partir sur des hypothèses en disant par exemple que si le cuivre est vendu à autant de prix, la RDC pourra rembourser sa dette à prix proportion.
Il ne s'agit pas d'un prêt, mais plutôt d'une avance, retorque l'ENS Tamoigna, expert au ministère des Mines.
Le montant là, il est rendu disponible par les Chinois à travers le programme d'infrastructure. Et c'est ce qui fait que pendant 50 ans que la Chine doit récupérer cet argent, on ne peut pas verser les dividendes à la Gécamine. Ce n'est pas un emprunt au vrai sens du terme. Mais pourquoi on n'a pas fixé l'échéance? Parce qu'au moment où on avait conclu ce contrat, on n'avait pas encore affiné le modèle plan final pour savoir qu'est-ce qui peut revenir théoriquement à la Gécamine.
Lubumbashi, Denise Maéo, Radio Okapi.
Merci Denise. Jean-Pierre Okenda, bonsoir, vous êtes en ligne.
Merci la journaliste.
Vous êtes chercheur en droit économique et sociaux à Action contre l'impunité pour les droits humains à ACIDH. Sur quoi vous vous fondez pour dénoncer ces irrégularités?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Je crois que nous avons présenté un rapport qui reprend pratiquement les déséquilibres. Et nous avons parlé de trois points. Il y a beaucoup de choses, mais je vais être vraiment précis. Nous avons parlé des problèmes d'abord au niveau du rapport entre parties. Et nous avons dit qu'il n'y avait pas une répartition n'est pas équitable, donc de part dans les participations au capital social. Étant donné que la Chine, la convention a été signée s'il n'y avait aucune étude de faisabilité et qui pouvait déterminer, alors on avait fixé arbitrairement, n'est-ce pas, les parents de parties. Et nous avons parlé également et d'un autre point qui était très important, c'est notamment et au niveau de la situation du taux de rentabilité interne également. Et vous conviendrez que également, et à ce chapitre, il n'avait pas eu non plus de faisabilité. Donc, on est parti sur des bases purement arbitraires pour arriver à rendre les études. Nous avons également abordé la question en rapport avec les exonérations fiscales qui sont vraiment illicites, qui sont très élevées. Nous avons considéré qu'au regard de la législation congolaise qui organise le système de la nation minière, que cela n'est pas prévu et on l'a fait par application et cela n'a pas respecté la loi. Et enfin, nous avons également essayé de parler, s'agissant justement de la question des remboursements ou des échéances, pour dire que, écoutez, bon, ce n'était pas équilibré. C'est parce que lorsque on considère la convention, on sera contre tout de suite que la production elle est connue. On dit pour la première année et deuxième année, troisième année, on pourra arriver à 200 000 tonnes de production et à la quatrième année, on va passer à 400 000. Mais que lorsque on voit le chapitre maintenant, ce qu'on pouvait rembourser, on fera aussi également compte qu'on ne fixe pas l'opinion par rapport à ça. Et voilà. Et en grosso modo, je crois que l'émission va nous permettre d'aller point à point pour au moins dire de ce que nous avons considéré comme étant des déséquilibres qui sont importants dans ces constats.
Alors, Jean-Pierre Okenda, pourquoi vous publiez ce rapport maintenant seulement?
Merci bien. Je voudrais porter à votre connaissance que le rapport, en fait, elle a été publié. Et d'abord, et au mois de mai, que nous l'avons publié, et sur la version électronique, et nous avons prévu que soit qu'elle puisse être publiée officiellement. Dans ce cadre là que nous n'avons pas assuré la diffusion de ce rapport-là. Et vous souvenez-vous, et que au mois de juin que nous avons prévu, il y a eu un problème avec la mort du CBA, et cela a. Nous avons beaucoup de blessés. Et cette situation a fait que. Et il y avait encore également été question de faire une division officielle de ce rapport. Et il y a eu beaucoup de paramètres qui nous ont échappé. Et pour faire réponse, nous sommes décidés, donc, de faire une division officielle de ce rapport.
Dieudonné Kamboué, comment vous avez accueilli ce rapport?
Bon, je l'ai accueilli, je l'ai reçu à peine. Je l'ai accueilli sans trop de surprise. En fait, ce rapport ne dit rien de particulièrement nouveau. Nous sommes dans un exposé de motifs classiques, en fait. Hein. C'est toujours la même chose qui sont dites. Mais ça va être intéressant, peut-être, de décortiquer un peu les faits qui sont présentés, d'essayer de les placer dans un contexte et de voir ensuite ce qu'on peut en retenir très exactement.
Mais vous venez de suivre Jean-Pierre Okenda qui, on peut résumer en 5 points, hein, a détaillé pratiquement les grandes lignes de ce rapport. Comment vous les abordez?
Bon, si vous voulez, on entre peut-être déjà dans le fond lui-même.
Déjà, oui.
Ouais. Je pense qu'il faut dire déjà une chose. Il faut se souvenir qu'effectivement, il y a eu une revisitation des contrats miniers et que le gouvernement congolais a appris des leçons sur cette revisitation des contrats miniers, ce qui lui a permis de baliser les axes fondamentaux pour les contrats à venir. C'est vrai que le contrat avec le groupe de consortium chinois est venu presque en même temps que nous étions en train de finaliser, on va dire, la revisitation des contrats miniers, mais on avait déjà tiré les leçons qui s'imposaient, à savoir la question de l'évaluation correcte des apports des partenaires. Ce que M. Okenda est en train de relever, à savoir qu'on n'a pas tenu compte, n'est-ce pas, des apports miniers, notamment, n'est-ce pas, de la partie GECAMINE, qu'il faut s'en souvenir, est une entreprise jusque-là publique, une entreprise d'État. Donc, j'aimerais déjà pouvoir dire à ce niveau-là, peut-être qu'il ne le sait pas, mais en fait, on a toujours intégrer, n'est-ce pas, les apports de la GECAMINE. Hein. Nous avons passé à peu près une année simplement pour certifier la qualité des réserves que la gécamine pour le compte, on va dire, de la partie congolaise, amenée dans le panier de la joint venture avec le consortium des entreprises chinoises.
Il relève aussi le cas d'exonération fiscale très élevée, par exemple.
Il faut déjà dire que peut-être que c'est quand même un contrat un peu particulier. Je vais peut-être déjà dire la différence qu'il y a entre ce contrat et les autres contrats que nous étions en train de revisiter. Tous les autres contrats mettaient en présence deux acteurs. L'investisseur, n'est-ce pas, privé et étranger, et le plus souvent, et l'entreprise publique congolaise qui avait besoin d'être renforcée en termes de technologie et en termes de capitaux frais. Ici, c'est un schéma tout autre. C'est un schéma dans lequel c'est un schéma triangulaire. Nous avons une entreprise publique qui possède, n'est-ce pas, un asset minier, c'est-à-dire des gisements ou une mine. Nous avons un consortium d'entreprises chinoises et nous avons l'État. C'est l'État, en fait, qui pose sur la table le principe de sa survie, le principe de l'amélioration, on va dire, du contrôle sur l'État, c'est-à-dire la nécessité de disposer d'infrastructures. Et cet élément entre dans le projet. À partir de là, les choses ne sont plus aussi simples que ce que nous avons traité avant. Donc, nous sommes bien obligés, par exemple, les retombées financières. Ou bien, quand est-ce que la GECAMI, par exemple, rentre, n'est-ce pas, dans ses dividendes? Il est évident qu'à partir du moment où le modèle a été construit pour placer la priorité sur l'érection d'infrastructures dont ce pays avait et a toujours cruellement défaut, si jamais les trois se mettent d'accord pour dire on va dans un premier temps payer les infrastructures et en même temps certifier les réserves minières à verser au projet minier, ce qui permet parce que la certification des réserves, ça prend quand même un certain temps. Si pendant ce temps-là, on peut lancer déjà des chantiers d'infrastructure, pendant qu'on est en train de finaliser une étude de faisabilité bancable pour le projet minier, en réalité, on n'a pas perdu du temps. C'est un peu différent, je le comprends, la plupart des gens procèdent de manière séquentielle. Ici, c'est un processus parallèle. On a essayé de faire les deux en même temps, avec plus ou moins de bonheur, parce que nous avions une communauté internationale qui nous a accompagnés, le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui sont intervenus pour essayer quelque part, en tant soit peu, de limiter un peu le projet infrastructure. Voilà.
Al Kitenge, comment vous analysez les deux positions que vous venez de suivre?
Je vais m'abstenir d'analyser les positions des uns et des autres, mais je vais quand même tenir mon point de vue sur le fond. Il est bon d'éclairer les Congolais sur quelque chose de très simple. Il s'agit là d'une démarche politique. Elle n'a rien ni d'économique ni de financier. Voilà un gouvernement qui arrive au pouvoir et qui n'a pas d'argent, qui désire faire un certain nombre de choses. Ces choses ont un prix, c'est la liquidité, l'argent. Et ce gouvernement n'en a pas. Le marché financier classique, nos partenaires, Banque mondiale, Fonds international, Union européenne et tous les autres, quand ils mettent de l'argent sur la table, c'est 300 millions, 400 millions, ou quand ils en mettent beaucoup, c'est 600 millions pour 2, 3, 4 ans. Regardez les DSRP. Il nous fallait donc aller dans ce que nous appelons les financements alternatifs. Intervient la Chine, qui est la banque du monde. La Chine, c'est la réserve en liquidité du monde entier. Et qui vient sur la table toute puissante, parce que la Chine a l'argent. Elle fait marcher les États-Unis. C'est elle qui dicte les règles lorsqu'elle négocie avec les États-Unis. Parce que même les États-Unis, si leur modèle financier tient en cours, encore, c'est grâce au fait que l'État chinois achète de bons trésors aux États-Unis. Et donc, cet État puissant financièrement vient au Congo et dit, mais moi j'ai une proposition, je vous donne de l'argent tout de suite, vous commencez à faire ce que vous avez envie de faire, mais en ce temps, ils alignent un certain nombre de conditions. Vous ne pouvez pas en vouloir aux Chinois d'avoir aligné des conditions qui, quelque part, peuvent vous sembler iniques. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs. Ils ont usé de tout ce dont ils disposaient pour, autour d'une table, négocier. Mais non, entre ce que les Chinois veulent faire, ce que les Congolais autorisent de faire, il y a une responsabilité à partager. C'est très facile aujourd'hui de critiquer ces situations et les conditions dans lesquelles les gens ont négocié. Souvenez-vous, nous sortions de la guerre, nous n'avions absolument rien.
il faut savoir que, déjà, du point de vue de la qualité et du volume des investissements que les Chinois mettent sur la table, c'est 10 fois ce que nous avons toujours connu avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Donc ces gens étaient puissants autour de la table. Mais là, il reste la question du modèle économique. C'est vrai, là-dessus, il y a beaucoup de péchés. Lorsque vous regardez la répartition des parts sociales, il y a un gros problème. La question, c'est de savoir quel est l'apport des uns et des autres. On a tendance à dire que l'apport des Chinois, c'est le financement. Non, les Chinois n'ont pas financé. Ils ont fait de la facilitation financière, parce que cet argent sera remboursé par la société. Mais figurez-vous, ce sera quand même remboursé peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, quand la société sera mise en place et qu'elle aura travaillé, qu'elle aura atteint sa situation financière équilibrée pour être en mesure de commencer à rembourser de manière tout à fait viable. Ça veut dire qu'en fait, ils ont pris un risque sur nous. Et le risque a un prix. Là-dessus, moi je pense simplement qu'il est bon que les Congolais comprennent que nous sommes là dans un modèle spécial qui doit nous servir de leçon pour être en mesure de discuter et de négocier avec d'autres personnes à l'avenir. Voilà plus ou moins ce que je peux dire en ce moment. Mais il faut quand même remarquer que lorsque vous lisez ce rapport, je l'ai lu de manière assez complexe, il pose des problèmes fondamentaux qui se retrouvent être les grands péchés du code minier. Notre code minier, entre autres, notre code minier, il faut le dire, il a montré ses limites. Au jour d'aujourd'hui, on doit l'interroger de manière sérieuse parce qu'il doit pouvoir jeter les bases d'une nouvelle vision du secteur minier. Quand je parle de vision, j'ai envie de dire tout de suite que nous n'en avons pas une, nous n'avons jamais réellement dit quelle est la vocation de notre secteur minier, tout en sachant que c'est un secteur dont les matières sont épuisables. Donc nous devons être en mesure de projeter notre pays au-delà des mines. Nous devons donc être en mesure d'utiliser le secteur minier comme un véritable levier d'une économie moderne. Ça, c'est le grand problème. Et il faudrait bien que les Congolais y accordent de l'importance.
Mais il y a un problème qui préoccupe, hein, tous les Congolais qui nous suivent en ce moment à Kitenge, c'est ce problème d'échéance, du paiement de cette dette.
Je pense que c'est une question technique et elle est financière. Elle sera discutée et puis ne vous faites pas d'illusions, il s'agit de 6 milliards de dollars, c'est absolument rien par rapport à nos besoins. Il faudrait que les Congolais se préparent à emprunter davantage. Nous devons emprunter 500 milliards, 1000 milliards de dollars pour être en mesure de travailler très sérieusement dans ce pays. Figurez-vous que nous sommes un pays de 2 345 000 km². 6 milliards de dollars, ça ne fera pas de différence. Pour moi, Joseph Kabila a montré que nous sommes capables d'engager un certain nombre de choses. Souvenez-vous que jusqu'il y a très peu de temps, la Banque mondiale nous disait que nous n'avons pas la capacité d'absorber de l'argent. Même quand ils mettaient beaucoup d'argent à notre disposition, nous n'étions pas capables de l'absorber. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on n'avait pas d'entreprise pour être en mesure de déployer des travaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer que nous sommes capables d'absorber 2-3 milliards de dollars dans les infrastructures en une année. Mais en fait, en réalité, ce dont on a réellement besoin ici, et je cite un chiffre qui vient de la patronne de la Banque mondiale ici, il nous faut minimum 7 milliards de dollars rien que pour les infrastructures chaque année, pour être en mesure de pouvoir imaginer que nous pouvons avoir des infrastructures dont nous avons besoin pour ce pays.
Jean-Pierre Oukenda, dans ce rapport, hein, vous évoquez notamment le manque de transparence dans la signature de ces contrats. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Monsieur Oukenda, vous nous suivez? Voilà, décidément, on a quelques soucis avec la ligne de Jean-Pierre Oukenda. La réalisation va tenter de le retrouver. Dieudonné Tamboué, vous venez de suivre Al-Kitenge, la démarche politique, le code minier pose un certain nombre de problèmes. Quelle est votre réaction?
Par rapport au fait que cette démarche est politique, oui, il faut bien le dire, hein, elle est volontairement politique. Et c'est tout à l'honneur, en fait, du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Il a clairement ciblé où étaient les priorités. À partir de là, c'est une démarche politique, certes, mais nous l'accompagnons et nous assumons. Maintenant, par rapport au code minier, c'est vrai, ce code, comme toute œuvre humaine, a quelques limites. Mais surtout, il faut bien que les Congolais s'en souviennent, parce que si nous parlons aux Congolais, il faut bien qu'ils s'en souviennent dans quelles conditions ce code est né. Nous sortions de guerre, il faut le dire, un pays qui était écartelé, qui était divisé, il faut le dire. Et par rapport à cela, quelle était l'urgence pour nous, pour le pays? C'était d'attirer les investisseurs, c'était d'attirer les capitaux dans le secteur qui était, qui est et qui sera, je pense pendant encore assez longtemps, le moteur d'un développement envisageable.
Mais autorise-t-il le manque de transparence?
J'y arrive. Hein. On parlera de la transparence. Je pense qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. C'était, on va dire, une certaine manière d'améliorer le climat des affaires dans le secteur minier pour l'investisseur. Et c'est vrai que, bon, nous n'avons pas fait seul, hein, ce code minier. Nous avons été poussés, en réalité, à le faire, hein, il faut le dire, avec nos partenaires de la Banque mondiale et tout.
Mais l'important, c'est de savoir dans quelles conditions nous l'avons. Nous, l'avènement de ce code est venu. Donc, c'est dans un pays en reconstruction, un pays en reconstitution, un pays qui a désespérément besoin de voir des capitaux étrangers venir, n'est-ce pas, aider à impulser un développement qui ne devrait venir essentiellement du secteur minier. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de prendre progressivement les garde-fous qui s'imposent, c'est-à-dire avec plus de contrôle. Nous avons adhéré à l'initiative, n'est-ce pas, pour la transparence dans l'exploitation des ressources extractives. Nous sommes dedans. Nous avons volontairement, c'est un engagement qui a été volontaire au départ, volontairement nous avons dit, voilà, nous voulons montrer ce que nous sommes en train de faire. C'est une démarche qui, il faut le dire, est essentiellement axée vers l'extérieur. Nous avons aussi au niveau intérieur une démarche qui s'appelle la traçabilité. Donc ce sont deux concepts, n'est-ce pas, qui sont en train de s'appliquer sur le terrain. Maintenant, les défauts qui ont été observés, n'est-ce pas, sur le code minier, parce que bon, ça fait déjà 5 ans, donc nous sommes à mi-parcours, n'est-ce pas, de l'exécution de ce code minier. Les défauts qui ont été relevés ici et là, nous sommes en train de travailler à les corriger. Mais il faut dire aussi une chose fondamentale, parce que lorsque nous entendons les jérémiades à gauche et à droite, il faut bien que le Congolais retienne une chose clé. Lorsque on peut avoir les meilleures lois du monde, et Dieu sait si dans ce pays on a eu de très bonnes lois, mais encore faut-il les appliquer. Le code minier a un très gros problème peut-être, son plus gros défaut, c'est peut-être les acteurs, les personnes qui devraient l'appliquer. Et puis c'est l'accompagnant de venir avec. Hein, et c'est tout ce que je pense l'auditeur de l'autre côté est en train de dire. Nous avons parfois des difficultés parce qu'il y a des capacités qui ont manqué. Mais elles continuent à manquer encore.
Jean-Pierre Oukenda, vous êtes de nouveau en ligne. Est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien, monsieur le journaliste. C'est vrai que je n'étais pas en ligne, mais je vous ai suivi parce que j'avais un autre téléphone écouté. J'ai suivi tous les débats et voilà, donc je suis allé.
Alors, avant de vous redonner la parole, écoutons cette question qui nous vient de Kananga.
Adrien Ilobakwe-Espero à Kananga, au Kasaï occidental. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait que la plupart des contrats que signe notre pays sont toujours considérés des contrats léonins? Est-ce que par manque d'experts ou il s'agit tout simplement de l'ignorance de ceux-là qui signent ces contrats?
Jean-Pierre Oukenda. Réaction.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour répondre à l'auditeur, je vais d'abord lui dire que et la RDC, j'ai l'impression que c'est ça aussi, donc ma vision des choses, et lorsque nous négocions les contrats, nous nous présentons comme d'abord un problème, nous-mêmes. Nous considérons que nous sommes un problème, nous considérons que nous sommes un pays post-conflit, nous considérons que nous sommes des pauvres, que nous n'avons rien, et généralement c'est ça. Et c'est cette même, et cette vision de choses que nous devons changer, c'est toujours nous considérer comme étant des problèmes. Et lorsque vous suivez très bien les discours même de la Chine, lorsque vous suivez les discours de la Chine vous dit bien, et moi je considère l'Afrique comme une opportunité, et pas comme un problème. Donc, c'est vraiment très important que nos gouvernants mettent ça en tête, que lorsque nous allons discuter de ressources, nous sommes dans une matière de ressources qui sont effectivement épuisables. C'est-à-dire que nous n'allons pas continuer à compter 20 ans, 30 ans, 50 ans après que nous allons continuer à aller sur cette là. Donc, et cette question est très importante que nous devons regarder. Et donc, pour revenir maintenant, si vous voulez, et au débat également, je vous ai attendu, et que les deux intervenants ont parlé des questions, que les problèmes que nous soulevons, des discours que nous soulevons dans notre rapport est fondé, et qu'on justifie toujours cela comme étant la RDC est un problème, qui ne fait rien, on a besoin de financement. Mais moi, je me dis qu'à un certain moment, c'est extrêmement important que nous puissions y apprendre au respect de notre propre législation. Je crois que tous les partenaires qui sont avec nous, qui ont besoin de cela, et nous devons montrer que nous respectons notre propre législation. Lorsque vous prenez les cas, si nous devons accepter ces justifications-là, c'est-à-dire que nous plaidons pour une application relative de notre propre législation. Et lorsque vous considérez cette même convention, au niveau de l'article 15, le premier point, vous allez voir que la Chine a pu, par exemple, voir qu'il y avait des irrégularités. Lorsqu'elle a dit que On est bien du moins qui suivent l'approbation du projet de coopération par le gouvernement chinois. La RDC s'engage à obtenir de son Parlement l'adoption d'une loi devant sécuriser le régime fiscal douanier et champs applicables au projet de coopération en raison de sa spécificité. Vous comprendrez que justement il y a un problème. Et il n'est toujours pas conseillable à ce que lorsque nous négocions le contrat, que nous puissions donner notre force. Moi, je ne crois pas que cela pourra et justifier l'annulation d'une loi, d'une législation de pays. Et tout simplement pour les raisons que nous sommes en train d'invoquer. On dit principalement l'air de ces matières et des financements. Et nous suivons l'actualité, l'actualité minière, vous avez suivi la commission et évidemment ce matériel qui avait effectué, et bon, le gouvernement qui avait effectué un déplacement et tout Katanga. Mais les rapports avaient été rendus publics. Nous avons par exemple, nous nous sommes évidemment rendus compte qu'il ne s'agit pas seulement de problèmes qu'on n'a pas de ressources, mais s'il y avait des ressources, les ressources qu'on a à même de les recouvrer. Donc je crois qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport au contrat, et je trouve que ces choses qui sont faites aujourd'hui sont à même de rassurer les Congolais par rapport à ce que nous faisons.
Jean-Pierre Oukenda.
Comme réaction, je vais revenir à ça.
Jean-Pierre Oukenda, dans le rapport, vous évoquez notamment le manque de transparence et Dieudonné Tamboué dit qu'il y a par exemple des mécanismes qui ont été mis en place pour corriger ce type d'erreur, notamment la traçabilité.
Relativement à cette question de manque de transparence, nous l'avons déjà souligné, et cette question continue à exister. Donc aujourd'hui, par rapport à l'application de cette fondation et des coopérations entre les entreprises chinoises et dans ce pays, vous allez vous rendre compte que les Congolais n'ont même pas accès à l'information. L'avenant a été signé. Donc, les pays de la Banque mondiale ont insisté de manière à ce qu'on revienne sur cette clause qui est vraiment dangereuse pour nous, et on y est revenu, et depuis lors là, et je ne sais pas. Moi, je suis ici dans la province de Katanga, et en tout cas, dans tous les cas, on est en train de chercher les informations. Les informations ne sont pas là. Et donc, tous les organes qui ont été institués et qui devraient en fait donner les informations congolais, parce que son droit, moi je sais que c'est sur ça. Il faudrait que notre gouvernement, le gouvernement comprenne que le droit à l'information, c'est un droit pour nous. Et ce n'est pas une affaire. Nous avons le droit de savoir que lorsqu'il y a des accords qui engagent l'État congolais, avec les autres partenaires, nous avons le droit à l'information. Là, il n'y a pas non plus d'information. Je vais vous donner encore un autre exemple assez pratique. Aujourd'hui, j'étais en train de lire l'interview que l'ambassadeur chinois a réussi à faire et accordé au groupe et au journal de contacter. Je dis par exemple que selon que nous sommes informés aujourd'hui, notamment sur les volets infrastructures, selon qu'on nous dit écoutez, les Chinois ont construit déjà la route de l'Afrique à ce moment-là, on fait ça. Mais du côté de notre gouvernement, qu'est-ce qu'il y a réellement des structures? Est-ce qu'ici au Katanga, par exemple, est-ce qu'il y a des cultures? Est-ce que les communautés locales qui vivent ici au Katanga, qui seront d'abord affectées directement, positivement ou négativement par le projet, ont-elles l'information? Je crois que là, ce sont des défis. Et nous continuons à dire au gouvernement que les gens s'inscrivent dans le cadre de donner l'information et nous avons besoin. Merci. Et donc, voilà, je suis le petit par rapport à ça. Et normalement, dans son temps, quand vous le voyez, les mobiles étaient bons. On a parlé de mobiles parce qu'on a bien écouté et on fait des petits temps de dormir à cette situation.
Merci.
Mais, c'est déjà à ce niveau-là, on risque de nous amener par des sources.
Jean-Pierre Oukenda.
Il m'a parlé de Katimba Eta. Il m'a parlé de l'hôpital de Katimba. Il m'a parlé également
de la ministre de la Voilà, permettez que je vous arrête à ce niveau, Alkitenge, vous réagissez également à la question d'Adrien Lobakwey de Kananga. Est-ce que la RDC manque des experts ou il s'agit tout simplement de l'ignorance dans la négociation de ces contrats?
Non, la RDC manque quelque chose de cruel, le plan. Un plan général du développement, celui sur base duquel on décide avec quel instrument on travaille. Nous utilisons et nous épuisons nos ressources minières sans savoir qu'il y a des conséquences à cela. Il y a des conséquences environnementales, il y a des conséquences financières et économiques. Et ça, ça manque aux Congolais. À partir du moment où vous n'avez pas un plan, vous faites partie du plan des autres. Tantôt ce sont les Américains, tantôt ce sont les Français. Et maintenant, on se plaint de six mois. En fait, je voudrais quand même dire quelque chose au sujet de notre ami, le militant de l'ONG qui a... Jean-Pierre Oukenda. Je suis fort aise aujourd'hui de pouvoir discuter d'un rapport qui a été produit par un Congolais ou des Congolais qui s'intéressent à un sujet congolais. Parce que nous sommes toujours malheureusement habitués à entendre des rapports qui viennent des ONG internationales. C'est très bien. Ça pose toute la question de qui finance cette ONG. Une étude comme ça, elle a été financée par qui? Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, ce que M. Jean-Pierre Okenga est en train de déplorer dans les contrats chinois, ça l'est de manière flagrante dans le contrat Tinkerfunguru Mining. Ça l'est de manière honteuse dans le contrat STL avec le groupe Forest. En fait, la plupart des contrats dans lesquels la Gécamines a été engagée sont des contrats très déséquilibrés. Mais en fait, la même fibre, la même faiblesse, l'accès à l'argent. Le Congo n'a pas encore développé un marché financier. Et de par le caractère rouge que l'on nous a collé, nous avons eu difficile à nous crédibiliser sur le marché international financier. Alors du coup, en se servant de nos propres titres miniers, les gens peuvent lever des fonds sur le marché international. À partir de ce moment-là, c'est toute la question de vous êtes 100% de zéro ou vous acceptez quelque chose. Et là-dessus, je pense qu'il y a une démarche qui peut réellement nous sauver, c'est l'apprentissage du marché financier. Savoir aller chercher l'argent là où on en a besoin. Parce que ce n'est pas acceptable que les gens qui viennent ici n'amènent rien du tout. En fait, ils amènent la facilitation à l'accès à l'argent.
Il y a cet auditeur Matumaïni Franklin de Bukavu, qui dit la plupart des contrats que signe la RDC contiennent souvent des irrégularités à cause de la mauvaise foi de ceux qui les négocient, parce qu'ils privilégient leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt général. C'est pourquoi on arrive à conclure des contrats non avantageux pour l'État congolais à Al-Kitingi.
Oui, c'est malheureusement vrai ce que ce monsieur dit. En fait, il pose toute la question des agents politiques, des opérateurs politiques, des gens ce qu'on appelle politiquement exposés, parce qu'ils exercent des fonctions et ils en abusent parfois. En fait, c'est toute la question des gens qui négocient le code minier et qui mettent des clauses qui en font des actionnaires dans des entreprises d'autrui sans contrepartie, des gens qui sont au pouvoir et qui deviennent fondeurs parce que, en fait, ils ont mis un certain nombre de dispositions, ils se sont donné des carrés miniers. Vous comprenez, ça pose toute la question de la moralité d'affaires en matière politique. Et là-dessus, je pense que les opérations qui sont en cours aujourd'hui au niveau de l'éveil de la moralité congolaise sont des questions qui posent les véritables fondamentaux de la société. Il est bon que les gens choisissent, soit tu fais de la politique, soit tu fais des affaires. Et quand tu es en politique, tu ne fais pas des affaires en faisant de la politique. C'est malsain, il y a un conflit d'intérêts. Et là-dessus, c'est une chose qui est souvent revenue, ça a tendance à justifier le fait que la plupart des contrats qui sont signés par nos propres frères sont des contrats qui nous désavantagent. Et je pense là-dessus qu'il y a un problème fondamental, à mon avis, c'est un simple problème de planification. Généralement, même les gens qui négocient, ils négocient de manière circonstancielle. Et là-dessus, il est important que le pays se dote d'un plan et d'une vision. Même le secteur minier, il faudrait qu'on décide de ce qu'on veut réellement en faire, et aujourd'hui, personne ne le sait.
Dieudonné Tamboué, vous allez réagir au propos d'Alki Kengé et Jean-Pierre Okenga, mais en plus, il y a Hilaire de Bounia en province orientale qui dit « N'a-t-il pas lieu de craindre que les irrégularités relevées par la CIDH ne soient restées comme tant d'autres ?»
Oui, ça fait beaucoup de questions sur lesquelles
il faut les questions essentielles.
En fait, oui, je prendrai d'abord la question de l'auditeur, du premier auditeur, qui a parlé d'expertise, enfin de manque d'expertise ou d'ignorance, c'est vrai, et par rapport à ça, mon ami Kipengé a ajouté le terme qui manquait, c'est vrai. Le problème, moi j'appelle ça un problème de manque de capacité de négociation, et malheureusement, c'est vrai, c'est aggravé par le fait que parfois la mauvaise foi s'en mêle, c'est-à-dire les intérêts. Hein. À partir du moment où on est sur ce terrain-là, on ne négocie plus, n'est-ce pas, en toute lucidité, par rapport aux intérêts de l'État, on négocie pour soi-même, malheureusement, il faut le dire. Hein. Alors, j'ai bien aimé cette assertion qui a été rappelée ici, pour laquelle la Chine, lorsqu'elle parle de l'Afrique, elle dit elle voit là des opportunités et non pas des problèmes. C'est vrai, c'est un problème de responsabilité. En fait, les Chinois savent pourquoi ils viennent chez nous. C'est à nous de savoir
pourquoi on les accueille.
Oui, pourquoi nous les accueillons, et ça, nous devons pouvoir tirer de cela. C'est ça aussi le problème de capacité. Et bon, le Congolais doit se préparer à négocier, il doit se dire qu'on ne vient pas pour ses beaux yeux, il y a certainement quelque chose à retirer de chez lui, et donc à lui d'imaginer, n'est-ce pas, des schémas qui font que lui aussi peut tirer les meilleures opportunités possibles de celui qui vient vers lui. Quelqu'un a dit, ça a été dit ici, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être arrêter, si pas freiner une certaine activité extractive parce que les ressources minérales s'épuisent. Moi, je dis, oui, c'est une manière un peu eugénique de voir les choses. Je crois que l'important, c'est d'extraire à bon escient et ensuite de convertir. Parce que nous pouvons bien nous dire, bon, allez, on ne sort plus le cobalt, c'est très bien. Mais ça veut dire aussi que nous n'avons plus de ressources que nous pouvons engager pour nous donner les moyens de notre développement. Le vrai problème, c'est de se dire, j'extrais pourquoi ? J'extrais, et là je suis tout à fait d'accord avec M. Kitenge, selon quel plan ? Qu'est-ce que je veux faire, n'est-ce pas, des ressources financières qui seront dégagées, n'est-ce pas, de la réalisation du projet minier ? Si on arrive à ce niveau-là, si on arrive à penser, n'est-ce pas, un cadre pour un développement durable et harmonieux à partir de ces ressources-là, en réalité, on a réussi la conversion et le problème ne se pose pas.
Alors, prenons cette autre question qui nous vient de Kolwezi Okatanga.
Maître Maïdi, depuis Kolwezi Okatanga, je voulais justement poser la question de savoir qu'en est-il des mécanismes de démantèlement pour les irrégularités qui déplorent ces ONG et aussi quel remède pour sauvegarder les gisements miniers du Katanga.
Jean-Pierre Okenda.
Bon, merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui est très importante. Nous avons fait des recommandations et aux autorités congolaises, notamment le gouvernement et le Parlement, et pour justement arriver à corriger cette réalité-là. Ce qu'il faut constater à ce contrat, c'est qu'on est en train de s'engager avec l'État congolais, justement. Ce sont des prêts que la RDC doit être en même temps remboursée ce prêt. Il y a assez d'enjeux par rapport à ça. Lorsque vous considérez, et on parle de écouter, les prêts pour les travaux d'infrastructure et même de l'investissement minier seront remboursés à hauteur de 6,1%. Nous parlons de 6,1%, mais on ne se pose pas la question de 6,1%, c'est combien d'argent? Ça veut dire que nous sommes dans le cadre vraiment bien. Nous sommes dans le cadre, justement, d'une société commerciale. C'est une société commerciale. Donc, les corps miniers, lorsque vous les lisez, vous lisez le préambule, vous comprendrez que le corps limite le rôle de l'État et que le corps ne peut pas être appliqué de manière discriminatoire. Donc, il faut revenir sur la régularité. Ça, nous considérons qu'il faudrait que les organes, notamment le Parlement, puissent quand même rappeler le gouvernement. Nous le rappelons à l'époque que, et lorsque le ministre des Travaux publics était parti et se présenter la question, justement, de cette convention, de sanctions de la convention, et nous donnera des députés, on fait des recommandations au gouvernement. Et ces recommandations sont là, justement, restées notamment. Et tout cela est montre en ce qui est que on est dans une situation qui est délicate. Donc,
voilà, Jean-Pierre Okenda, malheureusement, la qualité de votre ligne se détériore. Al-Kitenge, parmi les recommandations au gouvernement, la CIDH demande, par exemple, de renégocier le projet minier conclu avec la Chine en vue de remédier au déséquilibre apparent en défaveur de la GECAMINE. Est-ce possible encore à ces états?
Je crois que notre frère, le militant des droits miniers, doit savoir qu'une nation ne peut pas être une nation prostituée de manière éternelle. C'est une nation qui se renie à tout moment, qui signe des conventions en des moments de difficulté avec ceux qui leur viennent en aide et qui, dès qu'elles reprennent un peu de santé, commencent à remettre en question. Aujourd'hui, vous savez, il me gêne notre frère militant de l'ONG,
Jean-Pierre Okenda.
Monsieur Okenda. Il me gêne beaucoup parce que il ne sait pas quelque chose. C'est que aujourd'hui, lorsque vous regardez ce programme chinois, parce qu'il faut le prendre comme un programme, il a des effets induits immédiats et dans le long terme que personne ne regarde. Aujourd'hui, on est en train de faire des infrastructures. Et du coup, ça a un impact sur l'économie. Tout ça doit être calculé. Il faut savoir que l'extraction minière n'a pas encore commencé, mais nous jouissons déjà de l'argent. Il y a ce qu'on appelle le coût financier. Nous en jouissons aujourd'hui. C'est des choses qui doivent être regardées dans leur globalité. C'est une option politique qui a été prise à un moment donné. Il faut l'assumer. Mais là, il faut l'assumer de manière tout à fait responsable. Mais en contrepartie, nous avons un contrat comme celui de Kourou, que j'ai cité tout à l'heure. On est en train de déménager des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes de cuivre, de cobalt, contre rien. lisez bien ce contrat, il est de loin plus déséquilibré que la convention chinoise. Je peux vous garantir que là, on perd énormément d'opportunités. Et là, rassurez-vous, le contrat minier signé pour Tonkefou-Romé, en termes de parité, c'est encore pire que ce que nous avons avec les Chinois. Mais à côté de ça, du point de vue financier immédiat, nous n'avons rien. Ça veut dire que même les effets induits parallèles, on ne les a pas. Mais je voudrais simplement que nous essayons d'arrêter de jouer les partitions des autres. Vous savez, je dis tout le temps, nous sommes Congolais, nous devons défendre nos intérêts congolais et dire la vérité à nos compatriotes. La vérité, c'est la suivante. Nous n'avons pas notre propre plan de développement, et tant que nous n'avons pas notre propre plan de développement, les gens nous font danser dans leur plan. Il faut s'arrêter à un moment donné et décider de donner une vocation à nos différentes infrastructures. Vous savez, je veux dire, nos différentes ressources. Vous savez, aujourd'hui, on se plaint des contrats chinois. On n'a pas les moyens de les arrêter. Et le contrat chinois est tout petit par rapport à ce que nous sommes. Je lisais encore un rapport il y a 2 semaines. Le poids minier du Congo, c'est 24 000 milliards de dollars. De quoi on parle? On parle de 6 milliards de dollars? Soyons sérieux. Regardons ce que nous avons. Nous n'avons pas pu planifier pour les 6 milliards de dollars. Essayons de regarder de manière un peu plus clairvoyante l'ensemble du potentiel congolais et qu'on le planifie. Pour l'immédiat, dans le temps. Je dis tout le temps la même chose. Il faudrait que les Congolais planifient leur avenir. Sinon, tous les jours, c'est la Banque mondiale qui décide de notre avenir. C'est le Fonds monétaire international qui décide de ce que nous allons devenir. Et aujourd'hui, ce sont les Chinois. Il est important qu'on arrête de jouer avec les pieds. Ce pays est un pays de 60 millions de personnes.
J'ai donné un tambour parmi les recommandations. Il y a publié les revenus du secteur minier en vue d'en garantir une gestion efficiente et responsable.
Oui, à cette recommandation-là, le gouvernement congolais a accédé. Et je pense que ce militant Jean-Pierre Okenda n'est pas sans le savoir, hein, parce que la société civile est partie prenante en fait, de l'initiative ITIE. Donc, pour 2007 et 2008, notamment, on a publié. Donc, le problème ne se pose pas. Sinon, je voudrais juste revenir sur cette question de savoir faut-il renégocier le contrat chinois. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon voisin Kitenge. Je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné savoir ce que l'on veut très exactement et on ne peut pas tout le temps revenir sur des petits éléments en fait qui ne changent rien.
Mais vous êtes le ministère des Mines et la RDC, c'est ce qu'elle veut.
En la matière, c'est vrai, hein, c'est peut-être qu'il manque un super plan qui soit, n'est-ce pas, à la dimension du grand Congo. Mais nous sommes en train d'y arriver, nous sommes en train de nous consolider. Je pense que là, très exactement, la RDC a voulu des infrastructures, et parce qu'elle voulait des infrastructures, elle a mis le prix qu'il fallait.
Merci Dieudonné Tambo. Jean-Pierre Okenda, l'émission touche pratiquement à sa fin, il va falloir conclure, allez-y brièvement.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie la radio Capi. Et ce que je peux dire et par rapport à ce contrat, c'est que nous sommes en train d'assurer la façon dont les gouvernants, de manière à ce que nous puissions agir en toute responsabilité.
Merci.
Et lorsque le contrat chinois est en train d'être négocié avec un gouvernement élu, vous avez trouvé que la justification selon laquelle on a reproché aux autres contrats, c'est parce qu'on a dit, écoutez, il y a un problème, il y a un bureau de stabilité, et voilà, il faut renégocier, et voilà tout ça. Et donc aujourd'hui, nous sommes en fait un gouvernement élu, un gouvernement légitime qui négocie ces contrats et qui détient ses propres lois. Moi, je crois qu'il faut vraiment y mettre fin. Et il faut également que l'apport de la GECAMIN soit et donc évalué et nous communiquer effectivement. Comme dernière recommandation.
Merci Jean-Pierre Okenda. Permettez que je vous arrête à ce niveau, Al-Kitenge, un mot, juste un mot en guise de conclusion.
Il faut remoderniser le code minier, un des acteurs majeurs de notre structure économique, et je pense qu'il est important de supprimer l'artisanat minier, c'est une catastrophe.
J'ai donné Tamboué un mot également pour conclure.
Moi, je dirais qu'il faut vraiment revoir le rapport du Congolais à l'argent. Nous avons des ressources qui nous prédisposent à voir beaucoup plus grand que nous l'avons fait jusqu'ici. Il faut s'y appliquer, n'est-ce pas, dans le cadre de la conception des plans de développement d'aujourd'hui et de demain.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de votre aimable attention. Retrouvez cette émission sur notre site radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion en FM à 14h15, heure de Kinshasa. Au revoir. Thank you.